Septième épisode. Un drame d'amour. Chapitre 1er. Une rencontre inattendue. Par suite d'une avarie à ses machines, le steamer transatlantique l'Olympia avait été forcé de s'arrêter pendant quelques jours en rade de Madère. Les passagers, qui partis de New York, se rendaient presque tous en France et en Angleterre, car l'Olympia, qui appartenait à une grande compagnie anglaise, devait faire escale au Havre avant d'arriver à Londres, profitèrent de cette occasion pour admirer les merveilleux paysages de ces îles que les anciens avaient appelées les îles Fortunées. Parmi ces passagers, deux d'entre eux, qui occupaient des cabines de première classe, n'avaient pas été les derniers à profiter de cette permission. L'un était l'ingénieur Lix Harden, un germano-américain qui traitait, paraît-il, de grosses affaires de mine, et l'autre, son secrétaire effondré de pouvoir, M. Brooks, un Anglais. L'ingénieur offrait cette physionomie un peu dure, ce parler bref et ses façons sèches et tranchantes que finissent par prendre la plupart des hommes d'affaires endurcis et bronzés par l'égoïsme dans les grandes batailles de l'or. C'était un gros homme d'aspect peu sympathique, fort et trapu, la mâchoire lourde et les poings énormes. Sa face carrée, ombragée de cheveux roux, exprimait la brutalité, et ses petits yeux aux sourcils pâles reflétaient la ruse. Il pouvait avoir une cinquantaine d'années. Son secrétaire, âgé de 10 ans de moins, semblait plus aimable. À l'aisance de ses manières, à la correction toujours impeccable de sa tenue, il était facile de reconnaître un gentleman d'une excellente éducation. On ne put en dire autant de l'ingénieur, qui semblait prendre à tâche de se montrer aussi maussade, aussi renfrogné et aussi désagréable que possible. À la veille du jour où l'Olympia devait lever l'ancre, M. Lix Harden et son secrétaire, après avoir fait un excellent déjeuner à l'hôtel d'Espagne, résolurent d'employer le reste de l'après-midi à une excursion dans la campagne. L'atmosphère était d'une idéale douceur. La brise de la mer soufflait juste assez fort pour rendre la chaleur supportable. Et dès qu'ils furent arrivés à une certaine distance de la ville, les deux promeneurs se trouvèrent abrités du soleil sous l'ombrage de grands arbres que la hache ne semblait jamais avoir touchés. De loin en loin, ils rencontraient de blanches villas enfouies sous la verdure des platanes, des eucalyptus et des palmiers. Puis c'étaient des champs d'orangers et de citronniers aux troncs énormes dont les fruits et les fleurs embaumaient l'air. En présence de ce paysage enchanté où le travail, la pauvreté et la misère humaine ne semblaient pas avoir de place, un Français se fut souvenu de la phrase de Flaubert « L'air est si doux qu'il empêche de mourir ». L'ingénieur et son secrétaire venaient d'entrer sous le couvert d'un petit bois que traversaient des ruisseaux bordés d'iris et de jacinthes. Des dragonniers trapus et hissés sur leurs multiples racines se mélangeaient aux fougères géantes, aux bruyères hautes de 12 à 15 mètres, aux ilex, aux cocotiers et aux bananiers chargés de pesants régimes couleur d'or. Ici, murmura tout à coup l'ingénieur, comme s'il se fût parlé à lui-même, on se croirait en Océanie. Je connais dans les îles du Pacifique des coins de forêt qui ressemblent tout à fait à ceux-ci. M. Brooks, qui paraissait avoir beaucoup de respect et même une certaine crainte pour son directeur, ne releva pas cette réflexion. Tous deux continuèrent à marcher sous les fraîches voûtes de feuillage, mettant en fuite sous leurs pas de gros lézards verts ou des papillons éclatants. Ils avaient atteint un endroit où le sentier barré de lianes, bordé de plantes épineuses, devenait presque impraticable. Lorsque, dans un buisson, s'entendit un bruit de branches cassées comme si un animal de forte taille se fût enfui dans le sous-bois. Du même geste rapide, l'ingénieur et son secrétaire avaient mis le revolver au poing, et ils écoutaient avec attention. Une minute s'écoula. La forêt était redevenue silencieuse. Ils continuèrent leur chemin, mais ils avaient la sensation inquiétante d'être épiés et d'être suivis. Et de loin en loin, tantôt à droite, tantôt à gauche du sentier, parfois même leur semblait-il au sommet des arbres, des craquements, des bruits de feuillage froissés leur décelaient une présence invisible. Ils marchèrent pendant une demi-heure encore, et peu à peu, leur appréhension se dissipa. Les bruits qu'ils avaient entendus ne pouvaient évidemment être causés que par quelques bêtes sauvages. l'ingénieur commençait à ressentir une certaine fatigue. Bien que vêtu de coutil blanc et coiffé d'un léger panama, il suait à grosses gouttes. Il venait d'arriver au pied d'un mur de rocher dans lequel s'ouvrait une sorte de caverne d'où sortait en bouillonnant un limpide ruisseau. « Nous allons nous reposer ici pendant quelque temps, » déclara l'ingénieur, « puis nous reviendrons tranquillement à Madère. » Ils se glissèrent en baissant la tête par une entrée assez étroite et se trouvèrent bientôt dans une grotte spacieuse qu'une ouverture pratiquée au point le plus élevé de la voûte éclairait d'une manière fantastique, ne laissant pénétrer dans les ténèbres qu'un mince pinceau de lumière. On eût cru se trouver sous les arcades d'une église gothique. Des formes indécises, qui ressemblaient à des statues drapées de longs voiles ou à des monstres chimériques, ajoutaient encore à l'illusion. « Reposons-nous là le temps de fumer un cigare, » proposa Lix Arden. Et il se laissa tomber avec une réelle satisfaction sur une banquette de mousse, épaisse et verdoyante, qui avait poussé en bordure du ruisseau. « On est vraiment bien ici, » ajouta-t-il après un instant. Il tira d'une boîte d'or un havane qu'il fit craquer pour s'assurer qu'il était bien sec, l'alluma avec un soin méticuleux, puis en offrit un autre à M. Brooks. La fumée aromatique commença à s'élever en longues spirales bleues vers la cheminée située au sommet de la voûte, et toute la grotte se remplit d'un pénétrant parfum. L'ingénieur et son secrétaire, perdus dans leurs pensées, gardaient un profond silence et savouraient cette heure exquise. Tout à coup, un bruit sourd se produisit à l'entrée de la grotte, comme si la muraille de rocher se fût éboulée, et, en même temps, l'ouverture qui leur avait servi de porte disparut. L'ingénieur s'était levé très ému. « Nous sommes pris au piège, » grommela-t-il. « Aussi, quelle idée stupide ai-je eu d'entrer là !»« Je crois à un simple accident, » déclara M. Brooks avec beaucoup de sang-froid. « Ce n'est pas un accident, » dit M. Arden d'un ton péremptoire. « Il ne faut pas songer à grimper jusqu'au trou qui sert de fenêtre à cette tanière. » « Je vais toujours voir si l'entrée est sérieusement obstruée. Je suis sûr que tous nos efforts pour sortir seront inutiles. »« Qui vous fait croire cela ? L'auteur de l'éboulement ne peut être que l'homme qui nous suivait à travers bois et que nous avons sottement pris pour une bête sauvage. » La discussion se poursuivait sur un ton d'aigreur quand une face grimaçante apparut dans l'ouverture qui servait à la fois de fenêtre et de cheminée à la grotte. En même temps, un rire strident se fit entendre, longuement répercuté par l'écho des voûtes. « Il me semble que je connais ce rire-là, » murmura M. Brooks. « Ah, si je tenais celui qui se moque de notre ridicule situation !»« Elle est plus tragique encore que ridicule, » répliqua gravement l'ingénieur, « car si le gredin qui nous a fait prisonniers et qui présentement s'amuse à nos dépenses a visé de boucher l'unique trou par où il nous arrive un peu d'air et de lumière, nous serions littéralement ensevelis vivants. »« Pourvu, » murmura M. Brooks, « que ce ne soit pas là un traquenard dans lequel nous est attiré Todd Marvel. » »« J'y pensais. » Il y eut un silence pendant lequel leur ennemi inconnu continua à faire retentir la caverne de son rire désagréable. Puis les deux captifs virent descendre du haut de la voûte, à l'aide d'une longue ficelle, une petite corbeille faite de branches entrelacées. « Gentlemen !» cria alors une voix dont l'accent fit tressaillir les deux captifs. « Vous êtes dans mon pouvoir. Je vous invite à déposer le plus vite possible dans cette corbeille tous les objets de valeur dont vous êtes porteurs. « Je vous préviens que si dans 5 minutes vous ne vous êtes pas exécuté, je bouche le soupirail. » M. Lix Arden écumait de rage. « Tu te figures que je vais t'obéir ? » s'écria-t-il. « Comme si je ne savais pas qu'une fois que j'aurai donné mon argent, tu t'empresseras d'obstruer le soupirail. Mais tu n'auras rien. Tu entends, vil coquin ?»« À votre aise, » répondit flegmatiquement la voix d'en haut. « Je vous accorde 5 minutes de réflexion, et en même temps, je vais vous donner un aperçu de votre situation. » Instantanément, l'obscurité la plus profonde s'était faite dans la caverne. C'était comme si une douche de ténèbres fût tout à coup tombée sur la colère de Lix Arden. « C'est stupide » bégaya-t-il mélancoliquement. « Nous sommes à la merci de ce drôle qui, une fois nanti de nos valeurs, se gardera bien de nous délivrer. Je sais ce que je ferais si j'étais à ta place. » Et le steamer qui lève l'ancre demain au petit jour. Nous serons morts avant qu'on ait l'idée de se mettre à notre recherche. Si nous essayons de désobstruer l'entrée. Tout à l'heure, vous disiez que c'était inutile. Oui, mais maintenant. La discussion fut brusquement interrompue. Le soupirail venait de s'ouvrir de nouveau. et il semblait aux deux prisonniers qu'une bouffée d'air pur arrivait à leurs poumons, avec le rayon de soleil qui s'enfonçait comme une flèche dans l'épaisseur des ombres. « Vous avez réfléchi ?» demanda la voix d'en haut d'un air goguenard. Monsieur Brooks venait de se lever en proie à une émotion extraordinaire. « Je savais bien que j'avais déjà entendu cette voix, s'écria-t-il. C'est celle de petit Dad. Mon vieux Dad, reconnais tes amis. Nous sommes victimes d'une épouvantable méprise. Le docteur Christian est là. Tu veux donc ensevelir vivant ton vieux maître et ami ?» Mais soit que les échos de la caverne rendissent la voix méconnaissable, soit par une malice de Dad, celui-ci parut ne tenir aucun compte de cette adjuration. « C'est facile de dire mon vieux Dad, répliqua-t-il, et de se donner pour un de mes amis. Mais tout le monde, depuis un mois, connaît mon nom et mon signalement dans l'île. Personne n'ignore que je suis l'ami du docteur. Je ne me laisse pas prendre à une ruse aussi grossière. Donnez-moi d'abord vos banknotes. Si vous êtes vraiment des amis, ça se connaîtra plus tard. Si vous ne voulez pas les lâcher, je vais boucler le ventilateur. » L'ingénieur, aussi bien que son secrétaire, était atterré. Ainsi, Dad refusait de les reconnaître. Il se demandait avec angoisse s'il n'avait pas formé le projet de se débarrasser d'eux. Cette seule idée leur faisait froid dans le dos. « Mon vieux Dad !» cria encore le prétendu Brooks avec l'énergie du désespoir. « Tu renies donc Toby, ton dévoué camarade ? Veux-tu que je te raconte des choses que nous sommes tous les deux seuls à savoir ? Veux-tu que je dépose un échantillon de mon écriture dans la corbeille ?» Un vaste éclat de rire répondit à cette éloquente apostrophe.
« Ah, c'est toi, mon brave Toby !» s'écria Dad. « Pourquoi ne m'as-tu pas expliqué cela plus tôt ?»
Soit qu'il eût réellement fini d'identifier la voix de son compagnon d'aventure, soit qu'il jugea que la plaisanterie avait assez duré, le jeune bandit, que cette histoire semblait amuser fort, se montra aussi complaisant qu'il s'était montré terrible quelques minutes auparavant.
« Un petit moment de patience » cria-t-il. « Je vais vous ouvrir la porte, si on peut appeler ça une porte. »
Très peu de temps après, en effet, les deux prisonniers virent disparaître l'obstacle qui les séparait de la liberté. Une fois sortis de la caverne, ils admirèrent l'ingéniosité de Dad. La manière dont il avait compris la fermeture de l'entrée lui valut les éloges de Toby. Il s'était simplement servi d'une grande pierre plate, assez facile à remuer, et que maintenait un pieu fiché dans un trou creusé d'avance.
« Et moi, dit Toby, qui me croyais enterré derrière un gros bloc de rocher ?»
« J'ai fait assez de bruit pour vous faire croire à un éboulement sérieux. Sais-tu que ce piège m'a donné beaucoup de mal à installer ? Mais je savais bien qu'un jour ou l'autre, un des riches passagers des navires qui font escale à Madère finirait par y tomber. »
« Et si nous avions donné notre argent ?» demanda le docteur Klaus Christian. « Tu aurais refermé le soupirail ?»«
Parbleu, il me semble que c'était tout indiqué. Vous pouvez dire que vous avez eu de la veine. »
Petit Dad était peut-être la seule personne au monde qu'eut le pouvoir d'amuser et d'intéresser le sinistre docteur.
« Ah, je n'ai pas le courage de t'en vouloir, » fit-il avec un sourire indulgent. « Seulement, une autre fois, fais un peu plus attention à ceux auxquels tu t'adresses. »«
Bah, vous ne couriez pas un grand risque, » répondit Dad avec effronterie. « Si tu es en possession de vos papiers, j'aurais vite fait de reconnaître le quiproquo. »
Dad avait retiré de dessous les haillons dont il était vêtu un paquet enveloppé de papier gris et solidement ficelé.
« Vous allez voir, » déclara-t-il avec une certaine fierté, « que je n'avais pas oublié la mission dont vous m'aviez chargé. Voici les documents que j'ai pu enlever à Todd Marvaux. »
Le docteur ouvrit fiévreusement le paquet et examina d'un rapide coup d'œil les papiers qu'il renfermait. D'abord, il fronça le sourcil d'un air mécontent. Puis sa physionomie se dérida.
« Ce n'est pas précisément ce que je voulais, » murmura-t-il, « mais cela est très important quand même pour moi. » « Je sais maintenant que nos ennemis n'ont rien trouvé, ou presque, et en sont toujours à peu près au même point de leur enquête. »
Puis, s'interrompant brusquement,
« Mais comment diable te trouves-tu ici ? Et dans quel état ?»
Le docteur regardait avec étonnement les guenilles dont Dad était vêtu. Dans sa fuite à travers les bois, son complet de bonfaiseur s'était déchiré aux épines des halliers. Les cailloux aigus de la route avaient eu promptement raison de ses bottines, et de son pantalon, il ne restait que quelques lambeaux à peine suffisants pour sauvegarder la pudeur. De son élégance d'antan, il ne subsistait que son monocle et sa chemise, qui par extraordinaire étaient blanches.
« Ça vous étonne ? » expliqua-t-il. « Mais depuis un mois que je vis à la Belle Étoile, sans oser m'approcher des maisons, Je fais ma lessive moi-même. Je lave ma chemise dans les ruisseaux et je la sèche au soleil.
Il faut aviser au plus pressé, déclara le docteur quand Dad eut terminé le récit de ses aventures. D'abord, Toby va courir jusqu'à la ville, d'où il rapportera des vivres et des vêtements de rechange. Et cette nuit, nous trouverons moyen de faire embarquer ce mauvais drôle à bord de l'Olympia.
C'est que, fit Dad, cela ne me paraît pas commode, et je ne tiens pas à être rencontré en ville où une prime considérable est offerte à ceux qui me captureront.
Rassure-toi, j'ai un plan excellent. Un peu après minuit, tu gagneras l'Olympia à la nage. Et pendant que Toby occupera l'attention des hommes de quart, tu te hisseras sur le pont et je te cacherai dans ma cabine. Après, nous verrons. Pendant que le docteur et son fidèle Séid combinaient ensemble les détails de ce projet, Toby était parti pour Madère. Il en revint une heure après, chargé de paquets et de provisions. Le reste du plan fut exécuté de point en point, et le lendemain, quand l'Olympia sortit de la rade, Dad ronflait, confortablement étendu sur une des couchettes de la cabine, qu'occupaient ensemble Lix Arden et son secrétaire, M. Brooks. Chapitre 2. Une matinée de printemps. Le couvert était mis pour 4 personnes dans la salle à manger d'une des plus luxueuses villas de Ville d'Avray. Par la fenêtre grande ouverte, on apercevait le jardin, qu'égayait un clair soleil de printemps, et qu'embaumaient des massifs de lilas blancs. Les acacias et les boules de neige commençaient à fleurir. Les pâquerettes, les primevères, les crocus et les violettes entr'ouvraient leurs corolles sous l'herbe touffue des pelouses, et l'horizon était bordé de toutes parts par les masses profondes des bois de Saint-Cloud, de Sèvres et de Chaville, déjà parés d'une tendre verdure. Au milieu d'une allée, une jeune fille, simplement vêtue d'une robe de linon blanc, s'amusait à jeter des graines à toutes sortes de petits oiseaux, si familiers avec elle que quelques-uns se perchaient sur son épaule. Une cloche tinta. Moineaux et ramiers s'envolèrent dans un froufroutement d'ailes, en même temps qu'un jeune homme aux allures pleines de distinction criait gaiement de la fenêtre. « À table, Elsie, on n'attend plus que vous !» La jeune fille jeta d'un seul coup la poignée de graines qui lui restait encore et courut en riant vers la salle à manger étincelante de cristaux de mille couleurs et parée de tant de bouquets de fleurs que l'on eût dit un reposoir. Miss Elsie prit place à côté de son fiancé, M. Todd Marvel, pendant que le tuteur de la jeune fille, le banquier Robinson, s'asseyait à sa droite et que le Canadien Floridor s'installait à sa gauche. « Je crois, ma chère Elsie, dit tout à coup le banquier, que votre séjour en France vous a fait le plus grand bien. Jamais je ne vous ai vu d'aussi fraîche couleur et des yeux aussi brillants. »« Vous savez que je n'aime pas les flatteries, » murmura la jeune fille en rougissant. « Ce n'est pas une flatterie, » répliqua Todd Marvel. « Il faut bien dire la vérité. » La jeune fille eut pour son fiancé un regard à la fois tendre et timide. « Mon cher Todd, reprit-elle, je vous serai toujours reconnaissante de m'avoir trouvé ce coin verdoyant et paisible, où j'ai pu, enfin, recouvrer complètement la santé. Jamais je ne me suis sentie si heureuse et si tranquille. La seule pensée de me trouver à quelques milliers de lieues des usines et des palais, des bandits et des détectives, me procure un véritable bonheur. « Restons ici pour toujours, » dit gravement le milliardaire. « Ce n'est pas possible, hélas. Vous êtes trop riche. Vous vous lasseriez bien vite de cette paisible existence de rentier français, sans grandes ambitions, mais aussi sans angoisse et sans soucis. Ce qu'il vous faut, à vous, ce sont les entreprises grandioses et difficiles, les batailles implacables contre la nature et contre les hommes. « Je ne sais si ce que vous dites est vrai, » murmura Todd Marvel, devenu pensif. « Jusqu'ici, j'ai beaucoup lutté, beaucoup travaillé, beaucoup peiné. Mais le bonheur paisible que vous dépeignez si bien est vraiment fait pour me tenter. C'est vous qui avez raison, et je ferai ce que vous voudrez. » Elsie remercia son fiancé par le plus doux de ses sourires et lui pressa furtivement la main sans être remarquée des deux autres convives, tout occupés à se servir de superbes truites que le noir Peter David venait d'apporter. « Quelle journée radieuse !» s'écria à son tour le Canadien en montrant dans le fond du parc une antique fontaine que soutenaient deux tritons de pierre à la barbe moussue. « Belles eaux jaillissantes, ce ciel d'un bleu si tendre, à peine pommelé de petits nuages blancs, tout cela donne envie de vivre. » Dans sa simplicité, dit à son tour le banquier, ce menu lui-même est tout un poème printanier. Après ces belles truites tachetées de roses qui font penser aux torrents écumeux des montagnes, j'attends les asperges nouvelles, les côtelettes d'agneau escortées de petits pois, sans préjudice de l'omelette aux œufs de faisan délicatement truffée. Enfin, je crois qu'au dessert, nous aurons des fraises, les premières. Je ne dis rien de ces jolis vins de Touraine et de Bourgogne qui n'arrivent plus, hélas, en Amérique. » Ici, le banquier poussa un gros soupir et se versa un grand verre de Beaune. Floridor ne disait rien, mais il opinait du bonnet, mangeait comme un tigre affamé et buvait d'autant. On était arrivé au dessert. Monsieur Robinson, si vaste que fût son appétit, était enfin rassasié. « Avez-vous du nouveau pour votre affaire ? » demanda-t-il brusquement. Elsie et Todd Marvel échangèrent un regard de contrariété. Le visage du milliardaire se rembrunit. « Je n'ai jusqu'ici rien de bien concluant, » répondit-il avec hésitation. « Mais je dois précisément passer cet après-midi chez mon homme d'affaires, et j'aurai peut-être ce soir de nouveaux renseignements. »« Je crois qu'on se moque de nous, » grommela le Canadien d'un ton bourru. La question du banquier avait jeté un froid. Le beau visage d'Elsie elle-même était devenu grave, et le repas, commencé si gaiement, menaçait de se terminer presque d'une façon morose. Chacun des convives songeait à part soi à cette enquête, si importante pour Todd Marvel, et qui, malgré tous les efforts de celui-ci, depuis un mois qu'il était en France, n'avait encore abouti à rien. Cependant, d'un commun accord, chacun écarta ce sujet de conversation, et lorsque le noir Peter David apporta le café, la causerie était redevenue aussi brillante, aussi animée, aussi insouciante, en apparence, qu'au commencement du déjeuner. « Je suis, vous le savez, obligé d'aller à Paris, » dit le milliardaire en se levant de table. « Et vous, Elsie, qu'allez-vous faire cet après-midi ? » ?»« J'ai vu dans le bois de très jolies iris et des jacinthes qui sont prêtes à fleurir. J'ai vu aussi des fougères. Je compte emmener avec moi mon tuteur et Betty pour m'aider à déterrer toutes ces plantes et à les repiquer dans notre jardin. « Je vous accompagnerai si ça vous fait plaisir, » grommela le banquier. « Mais vous en auriez bien davantage pour quelques sous et de plus belles. Ce ne seraient pas les mêmes. Il y a une grande différence pour moi entre les fleurs qu'on peut avoir pour de l'argent et celles qu'on a plantées soi-même. » Un quart d'heure plus tard, Elsie, coiffée d'un vaste chapeau de paille qui la rendait encore plus jolie, partait en expédition, accompagnée de Betty qui portait une petite bêche, et du banquier qui, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, s'était armé d'un panier destiné à contenir les précieuses racines. Il venait à peine de franchir les grilles du parc lorsqu'ils furent rejoints par Virginia qui accourait tout essoufflée en brandissant un sécateur destiné, dans l'idée de la petite négresse, à couper les lianes, comme elle l'avait vu faire étant enfant, dans les forêts de la Louisiane. Elle avait appris que Miss Elsie allait à la promenade et elle avait pris tout juste le temps de revêtir un costume tailleur du plus beau rouge et de se coiffer d'un grand chapeau vert pour accompagner sa bienfaitrice. Virginia n'avait pas encore pu prendre passage pour Liberia. Le paquebot qui s'y rendait directement ne partait que dans un mois. Puis, avant de s'embarquer, la petite négresse, qui n'était nullement rassurée sur les conséquences de sa fugue involontaire, avait cru devoir écrire une longue lettre dans laquelle elle faisait le récit de ses aventures au fondateur de la colonie. « S'ils ne veulent plus de vous, lui avait dit Elsie, vous resterez avec moi. » Cette perspective n'était pas pour déplaire à Virginia, qui n'avait jamais été aussi heureuse que depuis qu'elle était demoiselle de compagnie d'une milliardaire. De plus, elle s'était prise pour Elsie d'un sincère attachement, et elle n'envisageait qu'avec répugnance le moment où il lui faudrait quitter la jeune fille qui lui avait montré tant de bonté et rejoindre la colonie noire. Chapitre 3. Première difficulté. Pendant ce temps, Todd Marvel et Floridor avaient pris place dans l'auto que pilotait le noir et filaient vers Paris. La voiture ne s'arrêta que devant un somptueux immeuble du quartier des Invalides, à la porte duquel on lisait en lettres d'or sur une plaque de marbre noir « Police privée, vol, mariage, surveillance, recherche dans l'intérêt des familles, protection contre le chantage, etc. » Les bureaux de l'agence étaient installés au premier étage, auquel on accédait par un escalier de marbre à double révolution, orné de cariatides et de vases remplis d'arbustes rares. Todd Marvel et Floridor pénétrèrent dans l'antichambre tendue d'une étoffe couleur carmélite, d'un ton sévère, et demandèrent le directeur, M. Roguin. Ce personnage les reçut dans un cabinet de travail dont le luxe de bon goût ne sentait en rien la misère des louches officines. Grave, toujours vêtu de noir, le visage rasé, les cheveux grisonnants, M. Roguin faisait tout ce qu'il pouvait pour ressembler à un notaire ou un banquier. Des boutons de diamants scintillaient à ses manchettes, et un diamant plus gros ornait la bague qu'il portait à son doigt. Ce fut avec les plus vives démonstrations de courtoisie et même d'affabilité, qu'il pria son riche client et le secrétaire de celui-ci de prendre place dans de moelleux fauteuils placés en face de son bureau. Aux premières questions de Todd Marvel, il hocha la tête, et sa physionomie sévère exprima une sincère contrariété.
« Je suis désolé, murmura-t-il. Malgré tout le zèle qu'ont employé mes meilleurs agents, je suis obligé de vous avouer que l'affaire n'a pas avancé d'un pas. »
« Très regrettable, » dit le milliardaire avec beaucoup de calme. « Peut-être désirez-vous que je vous fasse une nouvelle avance de fonds. » Todd Marvel s'attendait à une réponse affirmative. À sa grande surprise, M. Roguin eut un hochement de tête négatif, et se redressant sur son fauteuil, les pouces dans les poches de son gilet, il répondit d'un ton qu'il essayait de rendre aussi solennel que possible. « J'ai pour principe d'être envers mes clients d'une franchise absolue, et quelquefois brutale. J'aime mieux vous dire tout de suite que tout l'argent que vous pourriez me donner serait dépensé en pure perte. C'est de ma part une question de probité. D'autres, à ma place, s'arrangeraient de façon à vous laisser quelque espoir de succès pour gonfler d'autant la note des honoraires. Il n'est pas dans mes habitudes d'agir de la sorte. Je préfère vous déclarer tout simplement que l'affaire est trop ancienne. Tous les témoins intéressants sont morts ou disparus, pour qu'il soit possible d'arriver à un résultat. Il n'y a rien, absolument rien à faire. Grâce à ma grande expérience de ces sortes d'enquêtes, je puis vous affirmer que, dussiez-vous dépenser des millions, vous n'arriverez à rien.
« C'est votre dernier mot ?» demanda Todd Marvel.
« Absolument. C'est bien, je n'insiste pas. Vous dois-je encore quelque chose ?»«
Rien du tout. » J'ajouterai que je vous prie d'agréer mes remerciements pour la façon libérale dont vous avez réglé mes honoraires et ceux de mes agents. »
Le milliardaire était demeuré impassible. « Vos scrupules vous font honneur, » fit-il en se levant pour prendre congé. « J'espère que si vous appreniez quelque chose de nouveau, vous m'en feriez part. Je m'empresserai de vous prévenir. » Et M. Roguin se leva et reconduisit cérémonieusement ses clients jusque sur le palier. Todd Marvel et Floridor avaient repris place dans l'auto. « Où faut-il vous conduire ?» demanda le noir Peter David. « À la préfecture de police. » L'auto démarra.
« Ce monsieur Roguin a l'air d'un honnête, hein ?»
déclara le Canadien après un silence de quelques minutes. Todd Marvel eut un sourire plein d'indulgence.
« Mon pauvre Floridor, dit-il, tu seras donc toujours aussi naïf. Vraiment, tu es pas trop honnête. Ce Roguin est un fourbe de la pire espèce. Sa physionomie sue la fausseté et l'hypocrisie.
« Bah !» murmura Floridor stupéfait. « Il aurait pu cependant encore vous demander de l'argent. »«
Il n'aurait pas manqué de le faire si ça avait été possible. Sais-tu ce que j'ai conclu de la conversation que nous venons d'avoir avec lui ?»«
Ma foi, non. Tout simplement ceci. C'est que Klaus Christian est à Paris, qu'il nous espionne et que, de façon ou d'autre, il a trouvé moyen d'empêcher M. Roguin de continuer ses recherches. »«
Je n'avais pas pensé à cela. » grommela le Canadien abasourdi. Quand même, il y a dans toute cette affaire quelque chose d'obscur. Que diable, quand on a la chance d'avoir pour client un véritable milliardaire, on ne le quitte pas sans raison.
L'auto venait de stopper en face des grilles dorées du palais de justice. Todd Marvel et Floridor traversèrent le boulevard et pénétrèrent dans la grande cour d'honneur sur laquelle donnent les appartements du préfet de police. Après avoir gravi les trois escaliers, s'être égaré dans un labyrinthe de couloirs, ils pénétrèrent dans une antichambre tendue de verre où un huissier septuagénaire aux immenses favoris blancs reçut leur carte. Presque aussitôt, ils furent introduits dans le cabinet d'un secrétaire, tout ému et plein d'empressement, en songeant qu'il recevait ce fameux Todd Marvel dont la réputation était venue jusqu'en Europe et sur lequel couraient mille légendes. Avec une bonne volonté presque obséquieuse, il se mit à la disposition de son illustre visiteur. Successivement, il téléphona à la police judiciaire, aux archives, aux services de recherche et même à un vieux juge d'instruction, M. Gourin, qui, dans quelques mois, allait prendre sa retraite. C'était lui qui, quelques 20 ans auparavant, avait été chargé de l'enquête sur le mystérieux drame de Ville d'Avray. Il y eut des allées et venues d'agents, d'inspecteurs, de chefs de service, des coups de téléphone innombrables. Todd Marvel et Floridor attendaient patiemment. Leur déconvenue fut amère quand le secrétaire, très ennuyé, dut leur avouer avec toutes sortes de circonlocutions qu'on n'avait rien trouvé, absolument rien, sur l'affaire de Ville d'Avray. Au moment de la Grande Guerre, expliqua-t-il avec un visible embarras, on a détruit un grand nombre de dossiers qui devenaient encombrants et qui paraissaient ne plus offrir d'intérêt.
Il est probable que dans les journaux du temps et en employant des détectives privés, vous pourrez reconstituer assez facilement le drame qui vous intéresse.
Je vous remercie infiniment, dit Lord Marvel avec le plus grand calme. Excusez-moi de vous avoir dérangé.
Croyez que je suis désolé, balbutia le secrétaire, mais je me trouve ici en présence d'un cas de force majeure. C'est tellement loin, cette histoire.
Lord Marvel avait déjà franchi le seuil du bureau lorsque le secrétaire, qui était évidemment animé des meilleures intentions, le rappela.
Permettez-moi de vous donner un conseil, dit-il. Adressez-vous à une agence. Quelquefois, là où la police officielle ne peut intervenir, les détectives privés réussissent.
Todd Marvel ne put s'empêcher de sourire.
Je prends bonne note de votre idée, murmura-t-il, quoique je craigne bien que cela ne me serve à grand-chose.
J'avais oublié une chose importante. Y aurait-il quelque inconvénient à ce que je consulte la liste des Américains arrivés à Paris depuis un mois ?
À votre service, je vais vous conduire moi-même au bureau des passeports.
La liste des Américains récemment arrivés à Paris était très courte. Elle ne comprenait que quelques noms. Plusieurs étaient ceux de gens d'affaires, de banquiers que Todd Marvel connaissait personnellement. Trois seulement lui parurent suspects. Ceux de M. Lix Arden, ingénieur, de son secrétaire, M. Brooks, et du sous-ingénieur, Jock Turnip. Le milliardaire demanda à voir la photographie de ces trois personnages, et l'on s'empressa d'accéder à son désir. L'ingénieur Lix Arden, la face ensevelie sous une barbe envahissante, les yeux protégés par de grosses lunettes d'écaille, ressemblait à n'importe quel germano-américain.
Todd Marvel prit la seconde photographie, mais cette fois il s'arma d'une forte loupe, qu'il portait toujours dans la poche intérieure de son veston. Son examen dura longtemps, mais quand il l'eut terminé, son visage était rayonnant de satisfaction.
« Regarde, » dit-il en passant la loupe à Floridor. « Ce personnage s'est fait une tête d'Américain du Sud, avec des favoris et des moustaches noires comme de l'encre. Ne tiens pas compte de ce détail, et dis-moi à qui il ressemble. »
« On dirait Toby Craggan, » murmura le Canadien au bout d'une minute.
« Tu ne t'es pas trompé. Et maintenant que je l'ai identifié, il ne m'est pas difficile de reconnaître Klaus Christian sous la barbiche ondoyante de l'ingénieur Lix Arden.
Alors, le sous-ingénieur Jock Turnip est certainement notre vieille connaissance, petit dad.
C'est sûr. Nous allons vérifier la chose tout de suite. »
Bien que dad, avant de se faire photographier, eût jugé bon d'agrémenter sa physionomie d'une petite barbiche en pointe, et de moustaches à la Charlot, sans oublier le fameux monocle, Todd Marvel et Floridor le reconnurent grâce à son nez énorme et d'une forme tout à fait caractéristique.
« Que t'ai-je dit ? » s'écria triomphalement le milliardaire. « Toute la bande est à Paris et lancée sur notre piste. Je m'explique maintenant la façon d'agir de M. Roguin, qui sait même si cet infernal docteur ne possède pas certaines influences à la préfecture de police. »
L'ingénieur Arden et ses acolytes étaient descendus au Ritz Palace. Todd Marvel prit rapidement congé de l'aimable fonctionnaire qui avait fait son possible pour le renseigner et remonta en auto. 10 minutes plus tard, la voiture s'arrêtait place Vendôme en face du Ritz. Au bureau de l'hôtel, on répondit aux questions de Todd Marvel que l'ingénieur et ses deux aides étaient partis la veille au soir pour l'Auvergne, où ils comptaient acheter des terrains pétrolifères. Ils n'avaient laissé aucune adresse.
« Nous sommes roulés, » déclara Floridor. « Je suis certain que la bande n'a pas quitté Paris. À l'heure qu'il est, tous ont dû changer de tête, de costume, d'état civil, et nous aurons certainement beaucoup de mal à les retrouver. »
Todd Marvel ne répondit pas. Il était très mécontent de sa journée. Chaque fois qu'il avait tenté une démarche qui aurait pu être efficace, il s'était trouvé arrêté par d'invisibles obstacles. On reprit le chemin de Ville d'Avray. La moitié de la distance fut franchie sans que le milliardaire eût prononcé un mot.
« Pourquoi n'allez-vous pas voir notre propriétaire, qui est en même temps notre voisin ?» dit tout à coup Floridor. « Et c'est tout, lui. »
« Cette visite m'ennuie. Je me suis déjà présenté 3 fois chez M. Garçonnet, sans pouvoir être reçu par lui. Il passe pour un vieux maniaque tout à fait inabordable, et je doute fort qu'il en sache plus long que les autres.
Cependant, la villa qu'il habite, et qui est contiguë à la nôtre, bâtie sur les ruines même de la maison qui fut incendiée après l'assassinat de votre père.
Eh bien, soit, allons-y. »
La villa de M. Garçonnet, beaucoup moins somptueuse que celle qu'il louait à Todd Marvel, n'était séparée de cette dernière que par une épaisse haie d'acacia et d'épines roses, en ce moment en pleine floraison. La maison, élevée d'un seul étage et entourée d'un jardin en friche, offrait un aspect de tristesse et d'abandon dont Todd Marvel fut frappé. Des rideaux déchirés pendaient aux fenêtres, et les vitres couvertes de poussière semblaient ne pas avoir été lavées depuis longtemps. Comme les hommes, les édifices ont leur physionomie, leur personnalité et peut-être leur âme. Floridor avait eu la même impression. « Ce n'est pas ici la maison d'un homme heureux, » murmura-t-il en franchissant la grille, dont la peinture écaillée par la pluie et le soleil laissait apparaître des taches de rouille. « Pourtant, on le dit très riche. Ce n'est pas toujours une raison. » Une bonne d'une vingtaine d'années, aux joues roses et rebondies, aux grands yeux noirs, accourait au-devant des visiteurs. Mais elle semblait inquiète. Il y avait quelque chose d'effaré et de craintif dans son allure. « Je voudrais voir Monsieur Garçonnet, » dit le milliardaire. « De la part de qui ?»« De Monsieur Joe Johnson, son locataire. » En s'adressant au propriétaire de la maison même, où avait eu lieu le drame de la ville d'Avray, le milliardaire s'était trouvé dans l'obligation de dissimuler sa véritable personnalité. Il avait dû prendre un pseudonyme. C'était d'ailleurs, sans doute, le seul moyen d'apprendre quelque chose. Monsieur Marius Garçonnet, retraité comme chef de bureau d'un ministère, était un petit vieillard d'une soixantaine d'années, au regard vif et pétillant, à la moustache blanche et à la mine encore jeune, malgré la calvitie qui avait dépouillé son crâne, luisant comme une bille d'ivoire. Il reçut Oldmoreau avec la politesse que l'on doit à un locataire qui paie sans discussion trois ou quatre fois le prix ordinaire et le fit pénétrer dans un petit salon dont le meuble d'acajou, de style démodé, était couvert de poussière. Des fleurs desséchées pourrissaient dans des vases et, sous son globe, la pendule empire, arrêtée, n'avait pas dû marcher depuis de longues années. Le milliardaire observa que M. Marius Garçonnet, dont la physionomie avait dû être autrefois très gaie, paraissait amaigri par quelque chagrin secret. Il y avait dans ses traits une expression douloureuse et distraite. Il était visible qu'il faisait un grand effort pour recevoir convenablement ses hôtes. « Y a-t-il quelque chose qui ne marche pas à la villa ? » demanda-t-il avec une affectation de cordialité certainement factice. « Vous voudriez peut-être des réparations ?»« Il n'est pas question de cela, » répondit Tom Marvel, dont la voix était devenue grave. « Je vous ai loué cette villa sous le nom de Joe Johnson. Ce nom n'est pas le mien. » « Vous êtes Monsieur Todd Marvel ?» interrompit le petit vieillard sans le moindre étonnement. « Qui a pu vous dire ?» Le vieillard imposa silence à son interlocuteur d'un geste plein de fatigue. « Écoutez, » dit-il, « le jour même de votre arrivée, j'ai reçu des lettres anonymes, des lettres menaçantes, où on me révélait votre véritable personnalité, et où on me défendait, sous peine de mort, de vous fournir le moindre renseignement sur le drame dont cette villa a été le théâtre. D'ailleurs, » ajouta-t-il mélancoliquement, « je ne vous apprendrai pas grand-chose et vous en savez sans doute autant que moi. » Monsieur Garçonnet avait parlé d'un tel ton que son interlocuteur comprit qu'il serait inutile d'insister. Silencieusement, il se leva et reconduisit ses visiteurs jusqu'à la grille. « Croyez bien, » ajouta-t-il en les quittant, « que je ne vous dirai rien d'intéressant. Ce n'est pas que les lettres de menace m'aient intimidé, mais j'ai pour mon propre compte de si graves ennuis que je ne peux pas, véritablement pas, compliquer encore ma vie. Puis je ne sais rien. » Il y avait dans la gravité et dans la tristesse avec laquelle ces paroles avaient été prononcées quelque chose d'impressionnant. Todd Marvel et Floridor se retirèrent en silence. Nous ne tirerons jamais rien de ce bonhomme, dit le Canadien lorsqu'ils furent arrivés à quelque distance de la villa. J'en ai peur, murmura Todd Marvel. Comme il pénétrait dans le jardin de sa villa, le milliardaire fut tout à coup arraché à ses occupations et devant le spectacle qu'il aperçut, tous ses soucis furent momentanément oubliés et s'envolèrent comme une nuée de papillons noirs. Sur la pelouse située en face du perron, Miss Elsie, accompagnée de Betty, du banquier Rabington et de Miss Virginia, était en train d'étaler les trésors botaniques qu'elle avait rapportés de sa promenade. « Nous avons fait des trouvailles merveilleuses !» s'écria-t-elle en battant des mains. « J'ai de jolies jacinthes dont les clochettes bleues vont s'ouvrir dans quelques jours. J'ai du muguet et une belle plante aux fleurettes blanches qui lui ressemble et qu'on m'a dit s'appeler le sceau de Salomon. Et voici des iris de toute beauté que nous planterons au bord de la pièce d'eau. Ils ne tarderont pas à fleurir. » Le banquier venait de déposer à terre un panier rempli de petits marronniers d'Inde, de petits sapins et de petits platanes, qui, au dire de Virginia, ferait une superbe avenue avant une dizaine d'années. La petite négresse, couronnée de clématites sauvages et chargée d'un véritable fagot d'aubépines en fleurs, ressemblait à une divinité champêtre. Elle avait rapporté jusqu'à de grands morceaux de mousse, verts comme de l'émeraude et plus doux au toucher que du velours. Tout le monde était enchanté de cette promenade dans les bois, sauf cependant le banquier, qui suait sang et eau et avait hâte d'aller prendre quelques boissons glacées. On prit place à la table installée sous un bosquet de lilas et mit celle-ci contre son ordinaire et fit preuve du plus bel appétit. Après un instant de découragement, le milliardaire avait repris confiance dans l'avenir. Il était de ceux dont les échecs ne peuvent entamer la volonté. Et tout en s'entretenant gaiement avec sa fiancée et ses amis, il esquissait déjà dans sa pensée un nouveau plan qui, cette fois, devait l'amener à la découverte de la vérité. Chapitre 4. Capture intéressante. Cette nuit-là, Todd Marvel ne dormit que quelques heures, et son sommeil fut troublé par des cauchemars dus sans doute à ses préoccupations. Bien avant qu'il fît jour, n'arrivant pas à se rendormir, il se décida à se lever. Une promenade dans les bois humides de rosée calmerait ses nerfs fatigués. Et peut-être, dans le silence des profondes avenues, dont le feuillage bruissant semble parler, on ne sait quel vague et mélancolique langage d'un temps oublié, trouverait-il la bonne idée qu'il cherchait. Après une douche glacée, il se sentit parfaitement dispos. Il avait d'abord songé à réveiller Floridor pour l'emmener avec lui, mais il réfléchit qu'il serait cruel d'arracher le brave Canadien aux douceurs du sommeil. Il résolut de sortir seul. Il ferait une longue promenade par les sentiers qui conduisent à Garches et à Marne-la-Coquette, et il serait de retour pour le petit déjeuner. Il venait de descendre les marches du perron en faisant le moins de bruit possible pour ne réveiller aucun des hôtes de la villa, et il s'avançait vers la grille déjà sous le charme de cette tiède nuit de printemps, toute parfumée de la bonne odeur des jeunes feuillages et de la terre humide, lorsqu'il crut voir une silhouette suspecte se détacher du fond ténébreux des massifs. Le milliardaire se dissimula derrière le tronc d'un vieil orme et regarda. Au moment où il l'avait découvert, le malfaiteur inconnu tournait le dos à la villa et, par-dessus la haie qui séparait les deux propriétés, il semblait s'entretenir à demi-voix avec une personne assise à la fenêtre du premier étage de la maison de M. Garçonnet. Cette personne était une femme, et à la clarté indécise d'une veilleuse, Todd Marvel crut reconnaître la bonne, rougeaude et méfiante, qui la veille l'avait introduit chez son propriétaire. Le milliardaire était très intrigué. Que la bonne de M. Garçonnet profite de cette belle nuit pour écouter les doux propos d'un amoureux, cela est tout naturel. Mais pourquoi son Roméo a-t-il jugé à propos de pénétrer chez moi par escalade au lieu d'entrer directement chez sa belle? Pendant que Todd Marvel se posait cette question, il avait fait un mouvement involontaire. Le sable avait crissé sous ses pas. C'en fut assez pour donner l'alarme aux deux amoureux. « Il y a quelqu'un qui nous espionne !» balbutia une voix apeurée. « Attention !» Instantanément, la lumière de la veilleuse s'éteignit à la fenêtre du premier et la silhouette féminine disparut. En même temps, l'homme s'élançait avec agilité dans la direction du vieux mur, couvert de lierre, qu'il avait sans doute dû franchir pour pénétrer dans le parc. Mais il avait compté sans Todd Marvel. En quelques bonds, celui-ci le rattrapait et rudement saisit au collet. « Que faites-vous chez moi ? » lui demanda-t-il sévèrement. « Vous savez que je suis en droit de vous loger une balle dans la tête !» L'homme, un tout jeune homme, presque un adolescent, ne faisait pas la moindre résistance, ne se débattait même pas. Il semblait à demi-mort de frayeur. « Ah ça ! Que faisiez-vous ici ? » répéta le milliardaire impatienté. « Qu'êtes-vous d'abord ? Tâchez de me répondre, sinon !» Le jeune homme se mit à sangloter. « Oh ! Oh ! » balbutia-t-il. « Je ne suis pas un malfaiteur. Je n'avais pas de mauvaises intentions. »« C'est ce que nous allons voir. Vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir fourni des explications absolument nettes. Je verrai ensuite s'il y a lieu d'envoyer chercher la police. » Le prisonnier ne répondit à ces menaces que par un redoublement de larmes et de sanglots. La perspective d'être livré à la justice semblait l'avoir terrifié. Il avait perdu le peu de sang-froid qui lui restait et ne prononçait plus que des paroles incohérentes. Il faisait pitié. Todd Marvel pensa qu'il n'avait certainement pas affaire à un malfaiteur de profession. « Venez avec moi, lui dit-il d'un ton plus doux. » Le prenant par le bras, il le conduisit sans qu'il fît la moindre résistance jusqu'à un des petits salons situés au rez-de-chaussée de la villa. En entrant, Todd Marvel tourna le commutateur et put examiner en pleine lumière son prisonnier qui, affalé dans un fauteuil, paraissait plus mort que vif. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, à la mine honnête et naïve, aux vêtements propres, quoiqu'un peu râpés, et qui paraissait être un employé de bureau ou un commis de magasin. Tolmavol ne put s'empêcher de sourire. Le bandit qu'il avait capturé ne paraissait pas très redoutable. « N'ayez pas peur, lui dit-il avec bonté. Si vous n'êtes pas un malfaiteur, je vous donne ma parole que je vous laisserai partir d'ici tranquillement. Mais je veux savoir qui vous êtes et ce que vous faisiez chez moi. Il me semble que c'est assez naturel, après tout. » Et il ajouta. « Vous faites la cour à la bonne de Monsieur Garçonnet. Vous avez trouvé commode d'escalader mon mur pour lui parler. C'est du sans-gêne et de l'indiscrétion, mais ce n'est pas un crime. » Un peu rassuré, le prisonnier avait essuyé ses larmes. Et tout en paraissant très humilié de la situation où il se trouvait, il avait repris un peu de sang-froid.
« Je vous dirai tout, » balbutia-t-il, « mais ne m'envoyez pas en prison. Ma mère mourait de chagrin. »
« Pourquoi n'avez-vous pas pénétré directement chez mon voisin, au lieu de pénétrer chez moi ?»«
Vous ne savez pas que M. Garçonnet, dont la chambre est heureusement située très loin de celle de Rosalie et donne sur l'autre façade de la villa, ne dort presque jamais. Il saute à bas de son lit au moindre bruit suspect. De plus, il a muni sa porte et les murailles de son jardin de tout un système de fils de fer et de sonnettes électriques qui font qu'on ne peut ni ouvrir une porte ni sauter le mur sans qu'il en soit averti par un carillon infernal. Voilà pourquoi je me suis permis de pénétrer chez vous. »
« Je comprends. Mais qui est-ce, Rosalie ? La bonne, sans doute. C'est votre petite amie ?»«
Non, monsieur, » répondit le jeune homme légèrement vexé.
« Rosalie est une brave fille, mais ce n'est que la bonne de ma fiancée, Mademoiselle Simone Garçonnet. »«
Je ne comprends plus. »
« Rosalie fait sans doute vos commissions. Porte vos billets 12 à Mademoiselle Simone. » Le jeune homme eut un geste de surprise. Il paraissait troublé, comme s'il eût hésité à continuer ses aveux.
« Mais, monsieur, » dit-il enfin, et comme à contre-cœur, « vous n'êtes donc pas au courant? Vous n'avez donc pas lu les journaux d'il y a un mois? Il y a pourtant des confidences qu'il n'est guère dans mon rôle de vous faire. »
« Je ne suis au courant de rien, » murmura Tolmavol assez étonné.
« Vous n'avez pas appris le malheur qui a frappé M. Garçonnet ?»«
Non, vraiment, je ne puis pas vous raconter cela. Cela me crève le cœur. »
« Ayez confiance, » répondit Tolmavol, qui, depuis quelques instants, se sentait entraîné vers son prisonnier par une secrète sympathie. « Accabons ne pas montrer envers moi une entière franchise. Ne venez-vous pas de me dire que le fait était déjà paru dans les journaux ?»
Le jeune homme baissa la tête avec accablement.
« C'est vrai, après tout, » murmura-t-il. « Vous connaîtrez la vérité demain, si vous voulez. Je suis même tout à fait surpris que personne ne vous en ait parlé. Au fait, il faut peut-être mieux que ce soit moi qui vous renseigne, qu'un indifférent qui serait sans doute mal intentionné. »
Il ajouta comme faisant un effort sur lui-même.
« Ma fiancée est en prison. Elle est injustement accusée d'avoir empoisonné son oncle et son père est en train de mourir du chagrin que lui a causé cet horrible drame. Le pauvre homme ne veut voir personne. » Et je suis obligée d'avoir recours à la brave Rosalie qui adore sa maîtresse et qui veut bien consentir à me renseigner. Comprenez-vous maintenant pourquoi je me suis introduite dans votre parc comme un voleur? Moi, Michel Poliveau, dont le père est un commerçant parfaitement honorable et qui fait passer un mois avec d'excellentes notes mon troisième examen de pharmacie. »
Le jeune homme avait parlé avec un tel accent de sincérité, dans un tel état de chagrin et d'indignation, qu'il ne resta plus à Tolmavol aucun doute sur son innocence. Le milliardaire demeura quelque temps silencieux. Tout un travail se faisait dans son cerveau. Il commençait à entrevoir comme une lueur fugitive cette bonne idée qu'il avait si longtemps et si vainement cherchée. « Vous savez qui je suis ? » demanda-t-il brusquement à Michel Poliveau. « Monsieur Joe Johnson, le locataire de Monsieur Garçonnet, je suppose. Je pense que vous êtes discret et que je puis vous faire connaître ma véritable personnalité. Je me nomme Tolmavol. »
« Le célèbre milliardaire détective ?» balbutia Michel Poliveau avec une stupeur respectueuse.
« C'est moi-même. »«
Oh, si vous vouliez vous occuper du procès de la pauvre Simone ?»«
C'est précisément là où je voulais en venir. Je suis tout disposé à prouver l'innocence de votre fiancée, mais c'est à une condition. »«
Si cela dépend de moi ?»«
Cela ne dépend malheureusement pas de vous, mais bien de Monsieur Garçonnet. »«
Oh, si vous arrivez à établir que Simone n'a pas trempé dans le crime, et cela doit être facile pour vous, son père fera tout ce que vous voudrez. Avant tout, il faut que je vous pose une question. Répondez-moi en toute franchise. Mademoiselle Garçonnet est-elle véritablement innocente du crime dont on l'accuse ? »
Michel Poliveau s'était redressé, rouge d'indignation.
« Si elle est innocente ! » s'écria-t-il. « Mais je vous le jure sur ce que j'ai de plus sacré. D'ailleurs, quand vous l'aurez vue et que vous serez au courant de l'affaire... »
« Je vous crois. Je tâcherai de réussir. »
« Oh, alors le père de Simone sera entièrement à votre dévotion. » Je ne lui demanderai rien d'impossible. Tout ce que je désire, c'est qu'il me donne tous les renseignements qu'il possède sur l'incendie qui a détruit il y a plus de 20 ans la villa qu'il habite. Vous ne vous êtes pas adressé à lui ? Il n'a rien voulu me dire. Cependant, il connaît l'affaire dans ses moindres détails. Il nous en a parlé maintes fois. Je ne comprends guère la cause de son silence. Depuis l'emprisonnement de Simone, son caractère a complètement changé. Il est devenu méfiant, mélancolique, misanthrope, presque maniaque. Vous me conseillez d'aller le trouver ? Je suis sûre d'avance du succès. Il acceptera votre proposition avec enthousiasme. Étant donné, surtout, dit gravement Todd Marvel, que je ne lui demanderai rien avant que Mademoiselle Simone n'ait été mise en liberté. Michel Poliveau exultait. « Vous allez être notre sauveur !» s'écria-t-il. « Je commence à croire que c'est une inspiration providentielle qui m'a poussé à escalader le mur de clôture de votre parc. Pour ce qui est de moi, je me mets entièrement à votre disposition. Employez-moi comme vous l'entendrez. Tout à l'heure, je vous ai peut-être fait l'effet d'un poltron, mais vous verrez que je sais être brave quand il le faut. » Quand tu pris fin à cette longue conversation entre le détective milliardaire et le fiancé de Simone, il faisait grand jour. Tom Marvel sonna pour avoir du thé et des tartines et força son nouvel ami, tout confus d'un pareil honneur, à prendre part à ce lunch. 2 heures plus tard, Todd Marvel sonnait de nouveau à la porte de M. Garçonnet. Il resta enfermé avec le vieillard une grande partie de la matinée. Quand il sortit, il paraissait à la fois très satisfait et très ému. Il monta aussitôt à la chambre qu'occupait Miss Elsie et la mit au courant des événements de la nuit. Enfin, il tira de sa poche une petite miniature représentant le portrait d'une jeune femme d'une grande beauté et entourée d'un cercle d'or, rougi et noirci par l'action du feu. « Voici tout ce que M. Garçonnet a trouvé dans les ruines, » murmura-t-il d'une voix tremblante d'émotion. « C'est le portrait de ma mère. C'est à vous que je le confie, ma chère Elsie. » Et comme la jeune fille, très troublée, elle aussi, demeurait silencieuse et contemplait avec recueillement les traits de la mystérieuse disparue. « Soyez heureuse, Elsie, » ajouta-t-il. « D'ici peu, je le pressens, nous aurons fait un grand pas vers la découverte de la vérité. »« Je vous le souhaite de tout mon cœur, » murmura la jeune fille avec une certaine mélancolie. « Je l'ai compris depuis bien longtemps. Nous ne pourrons être heureux que lorsque cette sanglante énigme aura été complètement éclaircie. » »« Je le pense comme vous. La préoccupation de ce drame mystérieux qui m'a privé de mes parents a pesé comme un nuage menaçant sur toute ma jeunesse. Ça a été pour moi une véritable hantise et je sens que je n'aurai ni repos ni bonheur tant que je ne serai pas débarrassé de ce cauchemar. » Le milliardaire reprit après un silence. Il y a dans cette affaire des côtés terriblement troublants. Il me semble que plus j'avance dans mon enquête, plus le problème s'embrouille. Pourquoi, par exemple, des bandits comme Klaus Christian et sa bande semblent-ils avoir un puissant intérêt à ce que je demeure dans l'ignorance? En quoi cette affaire vieille de 20 ans peut-elle les intéresser? Que puis-je vous aider? Vous être utile? Balbutia Miss Elsie. Votre présence m'est infiniment précieuse, reprit Todd Marvel. N'est-ce pas votre sourire qui me réconforte quand je me laisse aller au découragement? Et n'est-ce pas pour vous, pour que rien ne vienne plus tard troubler notre amour, que je me donne tant de soucis? Elsie ne répondit à son fiancé qu'en lui tendant son front qu'il effleura d'un baiser.